Bonjour tout le monde. On est très contente, Catherine, Cyr et moi, de vous retrouver avec nous pour cette belle rencontre autour des écoféminismes. C'est bien de se voir en personne, hein, et dans cette salle qui a à la fois une grande beauté et un rappel d'une tradition qui est problématique, comme tout le monde le sait, à plusieurs égards, mais qui en même temps nous pose des questions d'intégration. Ah, du passé et de dépassement vers un avenir plus conforme à ce que nous souhaitons. Voilà, alors la première chose que je voudrais faire, c'est vraiment vous dire que c'est Catherine qui a eu l'idée de cette journée et qui m'a gentiment invitée à l'organiser avec elle. À un certain moment, elle a fait plus de travail que moi et je voulais l'en remercier aussi, la reconnaître hein, pour ça. On a eu beaucoup de plaisir, je pense, à travailler ensemble. Et aussi avec Élise Warren, qui est juste là, qui est doctorante et qui est notre adjointe et assistante pour cette journée, qui a fait beaucoup de travail aussi. Et notamment, le joli dessin que vous voyez sur le programme est l'œuvre d'Élise. Voilà, alors donc je voulais simplement dire que, bien sûr, pas besoin de vous présenter les écoféminismes, c'est vous qui allez nous en parler. Alors je voudrais remercier toutes celles qui ont accepté aussi de figurer au programme, de partager leur travail avec nous, cette première table et les suivantes, et puis simplement dire que ça nous montre l'ampleur des préoccupations. Je pense que nous allons voir beaucoup de disciplines, beaucoup de voies, dans le sens de voies parlées, mais aussi de voies de chemin, d'exploration, et que ça va être vraiment formidable de voir ce qui nous rapproche, hein, et aussi ce qui peut nous nourrir dans des pratiques ou des créations un peu différentes, hein, des nôtres. Alors voilà, donc bienvenue et je vous souhaite une excellente journée avec nous et avec nos formidables participants.
Merci Laurie, à mon tour de dire quelques petits mots. Tout d'abord, moi aussi, je souhaiterais remercier Laurie qui a accepté ma proposition tout à fait impromptue en début d'automne, qui débarquait comme ça un peu de façon inattendue sur le vif. Et donc, merci à Laurie d'avoir embarqué dans cette folle idée d'élaborer une journée d'études comme celle-ci qui a pris beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on avait imaginé d'ailleurs au début. Donc, je suis très, très contente de cette collaboration. Merci énormément à Élise pour son soutien, non seulement pour ce magnifique travail graphique, mais son soutien tout au long de l'organisation. On avait souhaité, avec cette journée d'études-là, oui, se saisir de cette reviviscence des perspectives écoféministes, mais en déplaçant la focale et vraiment en se concentrant sur la littérature et les arts vivants et les arts visuels aussi. Donc, vraiment de saisir cette pensée écoféministe qui ressurgit, qui se réinvente à l'époque actuelle, mais par le biais qui est un petit peu moins investi peut-être dans les discours, c'est-à-dire celui des arts et des lettres, de la création, donc de l'imaginaire. Merci d'être là. Alors, je m'attarde pas plus longtemps que ça. Je vais introduire d'ailleurs Laurie Gagnon-Bouchard qui va amorcer cette journée en livrant une brève présentation autour des écoféminismes. Et ensuite, elle va donc animer la première table ronde de la matinée.
Donc, je vais débuter cette merveilleuse journée avec un petit préambule, mais avant, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Laurie Gagnon-Bouchard, je suis étudiante au doctorat en philosophie à l'UQTR. Je suis aussi chargée de cours à l'IREF sur les écoféminismes avec Marianne Casselot. Dans mes recherches, je m'intéresse au rapport d'altérité à la nature, à la déconstruction du sujet maître, à la vulnérabilité, mais surtout aux solidarités et aux coalitions écoféministes. Puis, je suis co-responsable du comité féministe bien vivre, en fait, écoféministe de la Fédération des femmes du Québec, avec laquelle je milite depuis plusieurs années, puis dans laquelle on organise certaines activités sur les écoféminismes. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Je remercie Élise, Catherine aussi et Laurie de m'avoir invitée. Je suis vraiment heureuse parce que vous allez vraiment absolument me nourrir d'un autre point de vue habituel dans laquelle je rencontre les écoféministes. Donc, pour moi, les écoféministes sont d'abord des espaces de rébellion où il est possible d'imaginer de créer des ailleurs à la machine guerrière, coloniale, patriarcale et moderne. Les histoires des luttes et des pensées écoféministes sont riches de subversions et d'incarnations de nouveaux possibles face à une société violente. Les écoféministes sont d'abord des manifestations dansantes, théâtrales et poétiques, donc bien avant d'être une lunette d'analyse. Utilisant l'association négative des femmes et des personnes marginalisées à la nature, ont une affirmation positive et subversive qui concerne tout le monde. Voyant des liens entre l'exploitation de la nature et le mépris pour leur vie, les écoféministes ont vite compris qu'une solidarité avec le monde était nécessaire, voire vitale. Ainsi, les femmes du mouvement Chipko en Inde ont enlacé les arbres pour empêcher la déforestation. De leur côté, des femmes en Afrique du Sud, faisant partie du mouvement Women, je ne sais pas si vous connaissez, contre l'extraction minière, se sont mobilisées contre l'extraction minière en faisant des danses, en se filmant près des cratères miniers. Aux États-Unis, elles se sont mobilisées contre des centrales nucléaires. Elles ont marché lors du Women's Pentagon Action avec des marionnettes géantes, signifiant leurs émotions face à la culture guerrière et patriarcale, le deuil, la colère, la peur, mais surtout la force qu'elles mobilisaient contre cette culture. Les militantes écoféministes ont tressé les barrières du Pentagone de laine multicolore et d'objets du quotidien. Elles ont dansé sur la tête de missiles nucléaires et se sont tenues les mains pour encercler le Greenham Common en Angleterre, une base militaire. Elles ont ainsi incarné l'interdépendance au vivant, la sororité, le pacifisme, la solidarité, la force et la résilience à travers leur lutte contre l'exploitation de la nature, le nucléaire, la guerre et les impacts que ceux-ci engendrent sur leur vie, celle de leur famille et le vivant dans son ensemble. Les écoféministes sont des mouvements de connexion entre les êtres humains, les animaux, les plantes, les territoires pour contrer la tendance divisive et mortifère du patriarcat capitaliste et colonial. Les écoféministes cherchent à se réapproprier le rapport à la terre et au monde dans d'autres schèmes que celui de l'oppression. Les femmes, les personnes racisées, colonisées et marginalisées qui ont été attachées par la pensée moderne à une idée de nature dévalorisée et exploitable ont historiquement été appelées à nier leur lien à la nature afin d'être reconnues comme des sujets, afin d'avoir une voix au chapitre. Les écoféministes, tout comme les théoriciens et théoriciennes de la pensée décoloniale, mettent un terme à cette histoire de négation de la relation à la nature qui ne fait que perpétuer un rapport violent au monde. Elles proposent plutôt de mettre en lumière que nous en faisons tous et toutes partie. Elles nous invitent alors à imaginer, incarner, créer des ailleurs à la logique de domination. Il s'agit de refuser les oppositions binaires qui nous coupent de nous-mêmes et du monde, qui divisent nos corps. De faire advenir de nouveaux liens et de s'ouvrir à l'ambiguïté des relations, à la vulnérabilité qu'implique le fait d'être formé et dépossédé par le monde, les autres, la nature. Se considérer soi-même vulnérable, tout comme les autres et le monde qui nous entoure, permet d'accepter d'être affecté et transformé par l'altérité et de s'ouvrir à la pluralité des vivants sans reproduire l'assimilation ou l'exclusion. La vulnérabilité nous appelle au soin du monde, de nous-mêmes, des relations qui nous unissent. Pour les écoféministes, il est également fondamental de partir à la rencontre des schèmes de domination qui résident en nous, de nous confronter à nos ombres, à nos réflexes de contrôle et d'autorité. Starhawk nous invite à visiter nos paysages intimes afin de retrouver le pouvoir du dedans, de sentir, de guérir, d'aimer et ainsi de nous libérer du réflexe de la mise à distance. Elle nous invite également à mobiliser l'imaginaire et la magie afin de faire advenir de nouvelles réalités. De partir à la rencontre des symboles tels que la déesse et la sorcière, de les incarner. C'est pour cette raison donc que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous pour cette journée d'études afin qu'on se plonge ensemble dans les imaginaires et les créations écoféministes ainsi et surtout que leur potentiel émancipateur. Donc, pour la première table ronde, je suis heureuse d'être entourée de Karine Rousseau, Mélanie Binette, Émilie Martikoun, qui présenteront en duo, et Annick Lefebvre. Donc, je vais commencer par présenter Karine Rousseau, qui est professeure au département d'études littéraires de l'UQAM. Elle s'intéresse à la figure de l'autrice dans l'autofiction et aux différentes représentations des femmes racisées dans la littérature contemporaine. Elle a publié un roman intitulé « Mon ennemi Nelly » et une correspondance d'essai avec Nicolas Dawson ayant pour titre « Nous sommes un continent, correspondance métissa » qui est paru en 2021, édition triptyque. Karine Rosso est également l'autrice d'un recueil de nouvelles intitulé « Histoire sans Dieu » et la co-directrice des ouvrages Nelly Arcan, « Trajectoire fulgurante et interpellation, enjeu de l'écriture au-dessus ».
Je suis très heureuse de participer à cette journée et à cette table ronde, même si, comme si je l'ai spécifié aux organisatrices, je ne travaille pas précisément les questions entourant l'écoféminisme ou les écoféministes des Suds, mais ayant déjà étudié les figurations stéréotypées des femmes latino-américaines, lesquelles sont souvent essentialisées hein, et associées à la maternité et ou à la sexualité. Je suis toutefois préoccupée par le danger de réduire les écoféministes latino-américains à une seule représentation exotique où le lien entre femme et terre-mère, hein, la Pachamama, est à la fois simplifié et glorifié. Car s'il est vrai que ce lien se retrouve, par exemple, dans la cosmogonie Chicana de Gloria Anzaldúa, il est aussi réfuté par l'écoféminisme critique élaboré par l'Argentine Alicia Pulido, qui cherche à ancrer l'écoféminisme sud-américain dans une analyse marxiste des oppressions économiques. Dans cette très brève présentation, je vais donc essayer de départager certaines de ces épistémologies en essayant d'une part de voir s'il est possible de dresser un portrait de l'écoféminisme latino-américain qui ne soit pas réducteur ou essentialiste, et d'autre part de dégager dans ce contexte ce que peut la littérature. C'est un gros programme là, pour 10-12 minutes, mais à la toute fin de ma communication, je m'attarderai sur l'exemple du roman de l'Argentine Samantha Schweblin qui réussit, selon moi, à intégrer une cosmogonie écoféministe qu'on pourrait qualifier à la fois de révolutionnaire au sens marxiste du terme et d'ésotérique. Oui, ésotérique, ici utilisé comme synonyme de cosmogonie spirituelle et initiatique, tels que le sont les concepts d'Anzaldúin, de frontières et de Népantla. Car pour Gloria Anzaldúa, qui est née dans l'espace frontalier entre le Mexique et les États-Unis et qui est issue à la fois des descendants de peuples autochtones et européens, la spiritualité ne correspond pas au courant New Age ni aux religions patriarcales. Il s'agit plutôt d'une démarche permettant de faire tomber les frontières, visibles et invisibles, qui nous empêchent de comprendre la relation d'interconnexion et même d'amour qui nous relie aux êtres humains et non-humains qui partagent un territoire. Cette compréhension du monde amène notamment Anzaldúa à utiliser le concept de Népantla, issu de la tradition nahuatl, qui invite à penser une terre du milieu, à l'intérieur de laquelle la subjectivité est multiple et en constante interconnexion avec le monde qui nous entoure, les végétaux, les animaux, les phénomènes naturels, climatiques, etc. Quant aux frontières, elles ne sont pas que des limitations physiques pour Anzaldúa, mais aussi des lieux de connexion et d'interdépendance entre l'humain, la nature et le spirituel. Ainsi, comme le rappelle Caroline Ignace Potvin, je suis très contente de citer une ancienne étudiante, le concept met de l'avant une conscience sociologique et écologique, ainsi qu'une expansion de soi liant corps, nature et esprit. Dans son ouvrage « Ecological Borderlines, Body, Nature and Spirit in Chicana Feminism », Cristina Olmes reprend d'ailleurs le concept créé par Anzaldúa pour y amarrer celui d'« Ecological Borderlands », car selon elle, la région frontalière, y compris les biorégions qu'elle englobe, constitue un site d'exploitation et d'activité écologique affecté par des afflux translocaux et transnationaux de personnes, de flore et de faune. La pensée écoféministe de Gloria Anzaldúa, reprise et donc développée là, par Cristina Olmes, va donc beaucoup plus loin que le lien entre violence environnementale et la violence de genre, mais suggère néanmoins que les féministes opposées aux connexions entre genre et environnement prônant l'essentialisme empêchent parfois une mobilisation stratégique, hein, ce sont leurs mots, car le lien entre les femmes et la nature exprimé dans les cultures autochtones donnerait aux femmes le pouvoir de création et de repossession du territoire. Et il est vrai que l'on retrouve cette mise en relation entre violence sexuelle et de genre et l'exploitation des terres dans plusieurs luttes féministes contre l'extractivisme en Amérique centrale et en Amérique du Sud. On n'a qu'à penser à la lutte des femmes guatémaltèques contre la violence d'État et l'exploitation minière, par exemple, au cours de laquelle la leader, Lorena Cabanal, a développé le concept de territoire, corps, terre. Une même association est produite par le groupe féministe bolivien Mujeres Creando, qui ont créé dans une lutte qui les opposait à un projet d'autoroute devant traverser l'Amazonie, rien de moins, le slogan « Ni las mujeres ni las tierras somos territorio de conquista », qui veut dire « Ni les femmes ni la terre ne sommes des territoires à conquérir », slogan qui a ensuite été repris et clamé dans toute l'Amérique latine. On le retrouve dans des graffitis à Buenos Aires, à plusieurs endroits. De fait, dans leur article « Ni les femmes, ni la terre », Marine Allard, Lucie Esmat et Caroline Dossier observent, et je cite, « des similitudes entre les modes de surexploitation de l'écosystème et l'oppression de genre. Dans les deux cas, il s'agit de s'approprier et d'objectifier des entités dans le but d'en tirer profit. Mais au-delà, ce slogan est révélateur du lien très net sur le continent et ailleurs entre violence sexuelle et saccage de la planète. » Si, en Bolivie, comme dans bien d'autres pays, des femmes assimilent la surexploitation des ressources naturelles ou l'extractivisme à un viol, il ne s'agit pas que d'une métaphore. Fin de la citation. Et on peut dire que c'est précisément dans ce contexte discursif militant que s'inscrit l'écoféminisme critique de Alicia Puleo, parce que cette dernière ne réfute pas l'apport. Oui, c'est ça. Elle ne réfute pas l'apport des écoféminismes dits classiques qui cherchent à revaloriser la pensée ancestrale des peuples originaires, mais elle cherche à l'ancrer dans la réalité politique pour parer au danger que représente pour les femmes le refus de l'héritage de la modernité. Donc, réfutant l'association différentialiste entre femmes et nature qui empêche, selon elle, les écoféministes des Suds de pénétrer l'appareil théorique du féminisme occidental, on pourra en discuter, Puleo plaide pour une durabilité qui doit être, selon elle, accompagnée de l'autonomisation des femmes du Sud qui jouent, et je cite Puleo, un rôle majeur pour le changement grâce à leur activité de multiplicatrice ou d'extensionniste, c'est-à-dire en tant que travailleuses rurales qui proposent leur expérience et leurs connaissances à d'autres paysannes et paysans afin que celles et ceux-ci puissent produire des aliments sans ajout toxique et libérés de la dépendance économique qu'engendre le modèle standardisé de l'agriculture industrielle. Fin de la citation. Pour Puleo, la revendication de l'égalité et de l'autonomie des femmes passe aussi par la promotion des droits sexuels et reproductifs et la critique des écoféminismes antitechnologiques, qui est quand même assez répandue, je dirais, là, en Amérique latine, là, ces écoféminismes antitechnologiques, qui, sous le couvert d'une sacralisation des processus biologiques, peut entraîner une version conservatrice de l'écoféminisme. C'est la raison pour laquelle elle plaide pour un écoféminisme critique, ni technophobe, ni technolâtre, tout en reconnaissant que la pollution a un impact particulier sur la santé des femmes et la santé reproductrice. Enfin, à partir d'un écoféminisme non essentialiste, Puleo milite pour une universalisation des vertus du soin, donc du care, qui sont historiquement associées à la maternité et la féminité, et insiste, c'est important, sur le fait que les pays occidentaux minimisent et négligent l'apport substantiel de leur rôle dévastateur dans la déforestation, l'exploitation minière et l'incorporation de techniques chimiques et nocives dans les pays du Sud. Donc, c'est cette critique de la toxicité des rapports de pouvoir et des méthodes en gros, agro-industrielles qui se retrouvent au cœur du roman « Toxique » publié en 2017 par Samantha Schweblin qui, sans verser dans le roman à thèse, explore à la fois le lien qui unit les femmes à la terre et le mystère entourant les effets dévastateurs des produits chimiques. Dans un style obsessionnel s'apparentant au thriller psychologique parce qu'il s'agit d'une enquête, le roman décrit l'histoire de deux femmes qui voient successivement leur enfant attraper une mystérieuse maladie. Située quelque part dans la campagne argentine, l'histoire ne pointe pas vers un seul coupable, mais cherche à retracer le moment où tout bascule, où les vacances virent au cauchemar, où les relations d'amour et de care condamnent au lieu de sauver. Car, suggère Schweblin, le lien particulier, mais qu'on qualifie aussi de magique, qui unit les travailleuses rurales à la terre, se trouve peut-être tout simplement dans le soin quotidien qu'elles prodiguent aux petits êtres qu'elles doivent surveiller près des ruisseaux, dans les herbes hautes ou près des champs de soja qui couvrent d'un vert fluorescent l'horizon à perte de vue. tout au long du roman. Il est question de la distance de secours, là, c'est l'expression qu'utilise Schweblin, c'est-à-dire ce fil qui s'étire et se tend entre les mères et leurs enfants quand le danger guette et qu'elles deviennent attentives à la mort d'un oiseau, aux paupières gonflées des chevaux et à l'odeur particulière qu'émet la rosée dans certains coins où des hommes déchargent des bidons acheminés par des camions inconnus. Pourtant, des générations de femmes se sont mutuellement avisées. Hein. C'est que tôt ou tard, quelque chose de terrible va arriver, affirme Amanda au début du roman. Ma grand-mère a prévenu ma mère pendant toute son enfance. Ma mère m'a prévenu pendant toute mon enfance. Moi, je dois m'occuper de Nina. Fin de la citation. Désespérée par les taches, les cloques et les boursouflures qui recouvrent progressivement la peau des bambins, elles font appel à la femme de la maison verte, qui selon ses propres dires n'est pas voyante, mais peut voir l'énergie qui circule entre les corps. Je cite, c'est un peu long, mais ça vaut la peine. elle dit, elle guérit les maux de tête, les nausées, les ulcères de la peau et les vomissements de sang. Si on arrive à temps, elle empêche les fausses couches. L'autre personnage lui dit, il y a tant de fausses couches que ça. Oui, c'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle détecte l'énergie, elle la bloque si elle est négative et l'active si elle est positive. Ici, les gens du village la consultent beaucoup et parfois on vient de loin. Ses fils habitent la maison derrière chez elle, 7 fils, rien que des garçons. Ils s'occupent d'elle et de tout ce qu'il lui faut, mais on raconte que jamais ils n'entrent dans la maison. Un peu plus loin, nous y allons parfois parce que nous savons que les médecins que l'on appelle depuis le centre prennent plusieurs heures à arriver et ne savent ni ne peuvent rien faire du tout. Fin de la citation. Plus tard dans le roman, le récit mentionnera le poison et l'intoxication diffuse qui fait en sorte que la majorité des enfants naissent avec des malformations dans le village, alors que les hommes, toujours absents, complètement absents du roman en fait, sont occupés à travailler à la ville ou dans la grande plantation. Tout en reconduisant et en problématisant le lien qui relie les femmes à la terre et à la maternité, le roman propose donc aussi une lecture matérialiste de la division entre les genres et entremêle danger écologique et pouvoir magique des curanderas, hein, ces guérisseuses ancestrales qui, faute d'avoir accès à des médecins, soignent la santé reproductrice des femmes et la connexion énergétique entre les enfants, les éléments, etc. Si ce roman ne nous guérit pas de l'angoisse ou de l'anxiété écologique que l'on peut ressentir au sud comme au nord, il pointe toutefois vers ce que peut la littérature, c'est-à-dire offrir une lecture transversale et nuancée, révolutionnaire au sens critique, mais aussi initiatique, qui, loin d'offrir une vision réductrice des liens entre femmes et nature, multiplie et entrecroise les dangers auxquels nous sommes toutes et tous confrontés à différents degrés, peu importe la foi ou pas que l'on a en l'avenir. Oh.
Merci beaucoup, Karine, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte déjà qu'on puisse en parler ensuite. Donc, on va poursuivre avec la seconde présentation, communication d'un duo, donc Mélanie Binette et Émilie Marcoux. Mélanie Binette est une artiste interdisciplinaire, performeuse et chercheuse basée à Montréal. Elle a cofondé et dirige depuis 2009 le Milieu de Nulle Part, anciennement Théâtre Nulle Part, un collectif de création in situ et in socius qui explore des lieux en tant qu'espace imaginé, pratiqué, contesté, conquis et reconquis. Avec le théâtre Nulle Part, elle a créé et dirigé des performances dans des endroits variés, des toilettes publiques, un cul-de-sac de Griffintown et un local commercial vide sur le boulevard Saint-Laurent. Formée en théâtre à l'UQAM en 2008, elle est également détentrice d'une maîtrise interdisciplinaire en architecture, histoire de l'art, performance et communication de l'Université de Concordia. Son mémoire, qui se fonde sur une recherche de terrain, questionnait le potentiel politique de la participation des spectateurs et spectatrices dans des performances immersives. Depuis, elle a produit des œuvres relationnelles en milieu communautaire et en 2019, elle est retournée vers la performance en créant Errance, un parcours sonore sur le deuil de son père dans les espaces publics de la Place des Arts. Elle s'intéresse en particulier à la façon dont la performance transforme les lieux en créant des espaces virtuels, alternatifs et mythiques, brouillant les frontières de ce que l'on nomme le réel. Maintenant, Émilie. Donc, dramaturge à la Serre, art vivant, enseignante et chercheuse, Émilie Martcoun nourrit depuis plusieurs années un intérêt marqué pour la transmission. Sous toutes ses formes, l'accompagnement artistique et l'élaboration d'espaces de pensée singuliers. Suite à l'obtention de son doctorat en littérature et en art de la scène et de l'écran à l'Université Laval et Paris-Sorbonne, elle rejoint le corps enseignant de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Son passage au Centre des auteurs dramatiques en tant que conseillère dramaturgique et artistique, sa participation régulière aux cliniques dramaturgiques du Festival Transamérique, ainsi que les collaborations indépendantes qu'elle entretient avec plusieurs artistes de la scène d'ici et d'ailleurs, contribue à forger sa pratique. Alors, je laisse la parole.
Alors, donc, d'abord, bon, merci beaucoup à Catherine, Laurie et toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette journée. Merci pour le soin qui entourait aussi l'invitation et notre présence aujourd'hui. Alors, je vais juste resituer notre prise de parole à Mélanie et moi, un peu comme Karine l'a fait, c'est-à-dire que la perspective écoféministe n'est pas assurée, ou en tout cas est en discussion, en recherche. On est vraiment ici à partir d'un effort de formulation, un effort de conversation et une grande curiosité à l'égard de ce qui va se déployer aujourd'hui, plutôt que dans l'assurance d'une théorie qu'on viendrait développer à vos côtés. Alors pour ma part, c'est ça, on l'a dit, je suis dramaturge dans un organisme qui s'appelle la Serre Art Vivant, et qui est un organisme qui s'occupe d'accompagner des artistes dits émergents, émergentes, en art de la scène, donc aussi bien en performance, danse contemporaine, cirque contemporain et théâtre. Et depuis septembre, dans le cadre de mes activités à la Serre, j'organise un programme qui s'appelle les résidences nomades et qui invite une cohorte de 8 artistes à entreprendre le développement d'un projet en fait qui est à l'étape de recherche quand ils arrivent vers nous, et en collaboration avec la ville de Montréal, le soutien aussi du festival Transamérique que je tiens ici à souligner. Ces chorégraphes, metteurs en scène, performeurs, performeuses, scénographes, dramaturges bénéficient en fait de 4 semaines de travail qui sont réparties sur l'année au rythme des saisons dans 2 des grands parcs nature de l'île de Montréal, c'est-à-dire Pointe aux Prairies et Cap Saint-Jacques, qui sont vraiment les extrémités, les pointes de l'île. Alors parmi les éléments qui m'apparaît peut-être intéressant de partager avec vous en écho avec les préoccupations qui vont être les nôtres aujourd'hui, j'en ai retenu 2. Puis après, je laisserai la parole à Mélanie, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Le premier élément, c'est vraiment la tentative avec ce dispositif singulier d'expérimenter un dispositif de résidence qui soit pensé ou ancré à partir d'une perspective commune. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui est vraiment imaginé entre l'école buissonnière dans son sens étymologique et un espèce de workshop sans expertise aucune, et qui d'emblée remet en question le présupposé de la solitude en studio comme un activateur qui serait structurant en fait pour l'imaginaire des artistes. Autrement dit, ce qu'on propose à cette cohorte de 8 artistes, c'est vraiment de travailler seul ensemble, seul et ensemble. Hors des 4 semaines de trajet collectif dans les parcs, les artistes bénéficient aussi d'une semaine de résidence dans un studio pour des résidences sèches dans nos locaux à la Serre Art Vivant qui maintenant se trouve à Onsic. Donc, c'est vraiment faire le pari d'avoir ce dialogue en fait, entre des espaces de solitude qui sont nécessaires aussi à la créativité et des espaces de rassemblement, mais qui font intégralement partie en fait, du parcours qu'on propose aux artistes. Faire ce pari-là, c'est aussi faire le pari de formes d'engagement, d'attention réciproque, de solidarité impromptue entre les artistes qui se prêtent au programme sur un temps qui est assez long, puisque la cohorte se rencontre et l'esprit de groupe en fait prend un an pour se développer. Donc là aussi, c'est assez singulier dans le type de résidences artistiques qui sont offertes en fait habituellement aux artistes en art de la scène, en tout cas dans le contexte montréalais et même plus largement québécois. Pour nous, c'était aussi une manière d'imaginer un dispositif qui permette de se redonner du courage et des puissances en ces temps pandémiques qui ont littéralement anémié en fait le milieu des arts vivants depuis 2 ans. Donc ça, ce bricolage de solidarité, cet espace commun au sein d'un espace qui est de rechef et d'emblée pensé comme un espace individuel et donc structurant pour l'imaginaire, ça serait le premier point en fait qui pour moi participe de la singularité du programme que j'architecture avec d'autres. Je parle au jeu, mais nous sommes évidemment un « nous ». Et puis la deuxième partie de ce programme qui m'apparaît intéressant de partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment la tentative, par l'intermédiaire d'un déplacement, d'un travail qui est lié à l'extérieur, d'éprouver ou de sentir à partir d'une perspective multidimensionnelle les territoires sur lesquels nous travaillons, et donc une occasion aussi de se poser un peu différemment une question qui pour moi est liminaire, nécessaire à tout engagement dans une pratique artistique et de recherche, qui est d'où créons-nous ? Travailler en extérieur dans une perspective non utilitariste, excusez-moi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de créer une œuvre d'art pour les lieux ou d'être dans une relation extractiviste aux lieux qu'on va finalement traverser. De plus, aux marges de l'île, comme je vous l'ai dit, on fréquente les deux pointes, participe, je crois, et j'en suis presque convaincue après notre première semaine de travail, puis la semaine prochaine on engage la deuxième à Cap Saint-Jacques, à réveiller de manière très active en fait les fictions qui articulent nos rapports au territoire. Et je pense que travailler ici demande en fait qu'on s'attarde de manière très vive et très sensible à ces questions. Autrement dit, ce trajet dans les parcs nous invite à considérer très très vivement les logiques extractivistes, capitalistes, coloniales, anthropocentrées sur lesquelles s'appuient habituellement nos fréquentations de ces lieux. Et je crois aussi que ça participe pleinement à revitaliser nos expériences perceptives de ces environnements qu'on essaye aussi de déconstruire tout notre rapport à ce qu'on peut nommer nature, paysage. Bon, évidemment, c'est tout ce que j'avance là sont des bases de la réflexion écoféministe, mais de les activer à cet endroit-là me paraît extrêmement fécond en fait pour les artistes qui travaillent avec nous et qui du coup s'attardent, je crois, sur d'autres rapports d'affectation en fait par rapport aux relations qu'on peut tisser dans ces espaces. Alors bon, nous on nous avait dit 6 minutes à 2, donc je vais essayer de clore. Évidemment, il y a toutes sortes de stratégies qui sont déployées sur le terrain pour tenter de rencontrer ces deux pôles-là que j'ai essayé rapidement de mettre en perspective. Mais Mélanie, qui est à mes côtés, est une des artistes en fait qui traverse ce dispositif que j'ai vraiment un grand bonheur et une grande joie d'activer. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle replace sa pratique à l'intérieur du dispositif et puis partage avec vous peut-être la manière dont finalement elle contribue à l'habiter. On travaille aussi sur un mur collaboratif en ligne, donc vous allez voir quelques photos en fait de la première semaine de résidence qui s'est tenue début octobre. Je vais juste vous donner une idée en fait de l'espace et la manière dont il est activé et traversé par les artistes. Voilà. Merci.
Bon, ben merci encore une fois de nous avoir invités. Donc c'est ça, je vais peut-être juste revenir rapidement sur c'est quoi le milieu de nulle part qui est la compagnie, le collectif de création interdisciplinaire que je dirige et dans le fond, ça ancre un peu ma pratique, mais c'est ça l'idée de faire une approche in situ et in socio, c'est vraiment d'ancrer le lieu avec la communauté. Nos créations explorent vraiment la phénoménologie de l'immersion, la force des rassemblements communautaires, puis le pouvoir de connecter les gens à l'espace qu'elles et ils occupent. Tu sais, le choix du non-milieu de nulle part n'est pas innocent. Là. Être au milieu de nulle part, c'est adopter une position décentrée, prendre des risques, sortir des sentiers battus, traverser des frontières. C'est provoquer des ruptures dans l'homogénéité d'un territoire, dans un consensus. Puis c'est partir à la recherche d'espaces qui matérialisent des utopies. Donc, une quête de monde parallèle. Puis je pense que ça exemplifie vraiment, tu sais, la manière qu'on travaille entre la réalité et la fiction dans un lieu réel. Puis je trouve que ça permet de bien d'expliquer pourquoi je suis là dans les résidences nomades. Là, pour moi, c'était vraiment logique de faire une résidence. Au fait, je me pose plus de questions sur qu'est-ce que je vais faire toute seule en studio que comment j'active les espaces aux deux bouts de l'île, dans les deux parcs. Et la raison aussi pour laquelle Émilie m'a invitée à partager la parole avec elle, c'est que en ce moment, je travaille sur une œuvre, mais d'abord, il faut que je souligne à quel point c'est embryonnaire. Là. L'écriture commence en janvier, donc je suis vraiment en phase plus préparatoire à l'écriture du récit. L'œuvre va s'appeler « Patience », un peu à l'image de ma dernière œuvre, qui est un solo « Errance sur le deuil ». « Patience », c'est aussi un parcours de guérison qui se déroule dans l'intimité de l'audio. Mais cette fois, par contre, la guérison va passer par un récit de fiction. Donc, « Errance parlais du deuil de mon père, mais là, je tombe vraiment dans la fiction. Et c'est une fiction qui va être d'abord dystopique, donc imprégnée des théories des collapsologues sur l'effondrement de la société industrielle. Mais à travers ça, le récit se transforme en une fugue vers un espace utopique, un espace féministe alternatif et communal dans lequel la guérison se poursuit. Donc, l'histoire, c'est une femme qui a été agressée dans la rue, qui laisse derrière elle un Montréal en crise. Et elle a eu vent d'une rumeur d'un refuge au fond des bois, un espace qui accueille des femmes en colère, blessées, qui ont décidé de rompre avec une trame urbaine toxique, aux rencontres parfois fatales. Donc, elle décide de fuir la ville pour se rendre là. Donc, on travaille la tension entre l'utopie et la dystopie. Ensemble, en plein cœur de la nature, elles se soignent et apprennent à canaliser leur rage dans la lenteur et la patience, dont d'où le titre, que le processus de guérison requiert. Donc, ce récit emprunte assez clairement à l'archétype de la sorcière, qui est emblématique de la reprise de pouvoir des femmes sur leur corps et leur psyché, et qui est omniprésente depuis plusieurs années, depuis surtout 2017 et la première grosse vague de MeToo. Donc, la sorcière refait surface sporadiquement, à la fois victime et révoltée, quand la violence se manifeste. Et le récit pose la question de comment devient-on sorcière? Donc, c'est un récit d'un passage initiatique qui permet à une femme de se reconstruire, de vaincre la peur et de laisser aller la colère qui, après un temps, ne fait que la consumer. La destruction de la nature, l'atteinte à l'intégrité physique des corps et l'effondrement de la société civile sont conjointement présentés dans le récit comme un résultat de l'expansion des relations capitalistes. Loin du thriller survivaliste post-apocalyptique qu'on entend souvent porté par des voix masculines, il s'agira plutôt de restaurer la vision holistique du rapport au corps avec la nature et de restaurer par le fait même une confiance au monde envers les autres, qu'ils soient humains ou non humains. Pour vous donner un petit peu une idée comment ça s'articule dans mon passage durant la semaine de résidence qu'on a faite à la Pointe-aux-Prairies, donc qui est le bout de Pointe-aux-Trembles, l'espèce d'immense parc nature, je vais vous lire un extrait de mes notes que j'ai pris à la fin de la résidence. Aux limites de la ville, aux limites de l'île. Mes yeux plongent dans les eaux sombres du fleuve. Je me souviens des corps qu'on y a retrouvés, de morts violentes. Mon ami qui s'est suicidé en s'enfonçant doucement dans le courant. L'ami de mon ami qu'on a retrouvé assassiné, sa dépouille dans un sac de sport sur les rives du parc Belle-Rive. J'enregistre un peu ma voix. Je plonge dans la fiction dystopique. Et si on imaginait un Québec avec un gouvernement qui se débarrasse des corps des dissidents en les balançant dans le fleuve? Les rivages deviennent des endroits lugubres où on a peur de faire des découvertes. Une réalité très concrète dans l'hémisphère sud. Parce qu'il y avait une heure limite en soirée pour la barrière du stationnement où j'avais garé ma voiture et j'ai dépassé cette limite d'heure-là. J'ai dû abandonner ma voiture et rentrer en autobus. Le lendemain matin, la découverte de ma voiture solitaire dans le stationnement a effrayé le gardien du parc qui a failli alerter les secours parce que parfois, on retrouve des pendus dans les arbres. Je ne m'attendais pas à rencontrer tous ces morts-là durant ma semaine de résidence. Visiter ce lieu, un parc nature, en ayant en tête la rédaction de Patience, ça fait remonter des ombres à la surface des flots, des ombres suspendues aux branches. Car ce parc nature est liminal, pas tout à fait en ville, mais traversé par l'autoroute, traversé par les boulevards, et à l'image de ces milieux humides, il existe à la rencontre de plusieurs modes d'existence. Ma résidence s'est déroulée sous la pulsion d'un feedback loop entre la fiction et l'espace qui a été exploré.
Donc, Annick Lefebvre est diplômée en critique et dramaturgie de l'UQAM en 2004. En 2012, elle fonde Le Crachoir, une compagnie qui repense le rôle de l'autrice et de l'auteur au sein du processus de création, de production et de représentation d'une œuvre. Elle est, entre autres, autrice des pièces « Ce samedi, il pleuvait », qui a été finaliste du prix Michel Tremblay, « La machine à révolte », finaliste du prix Louise Lahaye, et « J'accuse », finaliste du prix Michel Tremblay et du prix de la critique de l'AQCT et des prix littéraires du gouverneur général. Les Barbelés, aussi finaliste du prix. Bon, les colonisés, lauréate du prix Michel Tremblay. ainsi que de très nombreux courts textes pour les événements collectifs. Annick a plongé récemment dans la coécriture avec Rebecca Deraps de leur pièce Fleuve, les fils du Saint-Laurent. Annick Lefebvre a été la protégée de l'auteur Olivier Chouanière au prix Siminovitch en 2014 et finaliste de ce prix en 2020. Donc, je...
Après cette présentation un peu égocentrique. alors, ben voilà, je m'appelle Annick Lefebvre, je suis autrice, dramatique et je pense être ici parce qu'effectivement, avec ma collègue autrice Rebecca Deraspe, on a récemment donné vie à un projet qui s'appelle Les filles du Saint-Laurent. En fait, son processus de création est complexe, mais on va juste, il pourrait faire à lui seul l'objet d'une table ronde, mais on pourra dire pour simplifier les choses qu'on devait écrire à deux. Et que finalement, en cours d'écriture, c'est devenu une pièce de Rebecca à laquelle j'ai collaboré. Bon, je pense que c'est important de nommer les choses telles qu'elles sont. En fait, le projet, à la base, c'est moi qui l'avais en tête. En fait, j'ai reçu une invitation de Wajdi Mouawad, du Théâtre de la Colline à Paris, qui m'a demandé ce que j'avais envie de faire. Et ce que j'avais envie de faire, c'était de réunir une distribution imposante. Donc, 9 actrices, un acteur, mais bon, au départ, ça devait juste être des femmes, de générations différentes. Parce que ce que j'avais en tête, en fait, c'était de parler du Québec, de la détresse des femmes et du territoire. Et j'avais le feeling que ça devait se passer en mettant en scène des personnages qui vivaient dans différentes villes du Québec ayant un accès au fleuve Saint-Laurent. Mon idée première, c'était qu'il y ait des jeunes femmes qui aient fait un pacte de suicide à l'échelle du Québec et que les personnages soient dans un rapport au deuil d'une de ces jeunes femmes-là. Et en cours d'écriture, quand j'ai demandé en fait à Rebecca d'embarquer dans le projet, on a ensemble fait bouger un peu le récit, la fable qu'on allait écrire et c'est devenu plutôt le rapport au choc de personnages dans des villes ayant accès au fleuve, mais qui découvrent en fait un cadavre. Et donc, l'idée derrière ça, c'est que le fleuve était saturé et qu'à chaque fois qu'il recevait de nouvelles morts, il se devait de faire remonter des cadavres à la surface. Et comme la pièce est écrite en pandémie, en fait, on trouvait plus intéressant tout à coup notre rapport au choc devant l'innommable plutôt que notre rapport au deuil. Donc c'est un peu ce que crée ça. Et en fait, dans l'écriture du projet, je me suis retrouvée beaucoup à prendre sur moi les parties du fleuve, donc à faire parler le Saint-Laurent. On savait qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait interpréter ce fleuve-là. Et assez rapidement, on a su que ça allait être la comédienne et slameuse Elkana Talbi, Quinca, qui allait prendre ça sur ses épaules. Donc voilà. Et puis, j'ai pris plein de notes. Je parle pas du tout de ce que j'ai noté. Ce qui est important pour nous, c'est qu'en donnant cette parole-là au fleuve, c'est qu'on se disait que tout le monde confiait des choses au fleuve. Tout le monde entretenait un rapport d'amour ou un rapport mitigé ou un rapport de répulsion au fleuve. Tout le monde au Québec, en tout cas, on avait l'impression que ne serait-ce que géographiquement se positionnait par rapport au fleuve. On se fait demander d'où on vient. Souvent, on va donner des balises géographiques par rapport au fleuve. Puis il y avait dans notre duo d'autrices le fait que moi, j'entretiens pas de rapport émotif au fleuve. J'ai grandi sur la rive sud de Montréal, en banlieue. Je ne me suis jamais levée en allant mettre mes yeux dans le fleuve ou j'ai jamais confié de grands secrets au fleuve. Mais en revanche, Rebecca est née à Rivière-du-Loup et elle a un rapport tout autre, très émotif. Elle affirme même, et je peux le dire parce qu'elle le dit elle-même en entrevue, qu'elle parle au fleuve, qu'elle se confie à lui concrètement. Donc on avait envie aussi de faire se rencontrer ces perceptions-là. Puis aussi, bien, j'avais envie de renverser ce rapport-là parce qu'en fait, on se dit « Ah oui, c'est vrai que ça peut être un,
un lieu de confession, que ça peut être... Mais en même temps, inversement, tu sais, qu'est-ce que le fleuve a à nous confier? Je trouvais qu'actuellement, il était grand temps qu'on lui donne la parole, en fait. Après, comment lui donner la parole? Ça a été un beau, grand problème. En fait, il a fallu faire plusieurs allers-retours parce que j'avais tendance à écrire un discours maîtrisé. J'avais tendance à faire « OK, ben le fleuve enfin va déverser son fiel, va dire à quel point on lui fait mal, va dire à quel point il va en parler en grosse tirade de monologue bien dense et bien incisive. » Puis on s'est rendu compte que ça marchait pas. Ça marchait pas dramaturgiquement. Parce que tout à coup, ben c'était pas vrai que devant, mettons, le destin de ces personnages-là qu'on faisait évoluer en parallèle, puis qui venaient nous exposer leurs failles, ils pouvaient pas être plus forts que les personnages. Fallait qu'ils nous montrent ces failles. Fallait qu'ils... Puis comme Rebecca avait installé chez les personnages une espèce de dramaturgie, de l'hésitation, du choc, nos personnages étaient dans un moment où ils étaient fragiles, ils étaient en remise en question, puis il a fallu qu'on fasse la même chose avec le fleuve. Qui m'a personnellement forcée à inventer une nouvelle façon d'écrire, si on veut. Donc voilà, je pense que c'est un peu pour ça que je suis ici. Puis j'ai l'impression que les questions d'écoféminisme, en fait, que c'est des choses qui infusent en moi puis qui finissent par ressortir quand j'écris.
Je pense qu'on va pouvoir ouvrir, mais d'abord, aucune honte avec des biographies si impressionnantes, même si je vais juste le dire parce qu'on lit, puis je sais que vous étiez gênée, mais c'est super de faire de tels accomplissements, donc il faut absolument pas être gênée, je pense. Je sais pas s'il y avait des questions dans la salle. On peut ouvrir. Moi, je peux peut-être rebondir pour vous laisser le temps de formuler une question ou deux. D'abord, j'aimerais faire un commentaire pour Karine. Je trouvais ça vraiment intéressant de mettre de l'avant aussi l'aspect vraiment idéalisé là, de la Pachamama, puis de la questionner, parce que c'est vrai que certains pans de l'écoféminisme tendent à justement embrasser des visions du monde cosmogoniques différentes, sans non plus se rendre compte de la colonialité que ça implique, et sans non plus avoir fait la réflexion décoloniale qui s'impose, puis aussi de voir qu'il y a des choses qui ne se traduisent pas. Donc, quand on part d'un rapport au monde moderne. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Puis je trouvais ça vraiment intéressant que tu fasses ressortir à travers Toxique la question de l'imposition d'une vie toxique. C'est quelque chose que Malcolm Ferdinand nomme dans Une écologie décoloniale, qui est comme une œuvre assez fabuleuse. La question écologique dans les Suds, c'est cool l'imposition d'une vie toxique, mais on peut penser aussi dans l'urbanité, en fait, même à Montréal, par exemple, selon la géographie, l'imposition d'une vie toxique, ou on peut le penser aussi pour les femmes qui prennent, par exemple, des contraceptifs. Donc, la question écoféministe, je pense, de l'imposition d'une vie toxique est importante, mais surtout quand on le croise avec la question de la colonialité, donc si on pense au scandale du chlorhydrone, mais même on peut le penser en Ontario, où des communautés autochtones, en fait, ont des taux de mercure dans leur eau parce qu'il y a eu des déversements, on leur a pas dit. Donc, c'est vraiment un aspect qui est très, très, très important puis qui croise la colonialité absolument. Donc, merci de l'avoir fait ressortir. Puis, j'ai trouvé ça intéressant que tu le croises avec la question du soin. Puis, de le mettre en relation, en fait, parce qu'on parle beaucoup de l'imposition d'une vie toxique. Puis, d'autre part, du soin, mais qu'en est-il du soin continuel dans l'imposition d'une vie toxique? Là, d'autre part, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, votre présentation du haut, au niveau de la question, surtout de la collaboration des coalitions, des solidarités dans la création, des frontières aussi, de l'aspect, parce qu'on parle beaucoup d'interdépendance dans l'écoféminisme, mais qu'en est-il de s'appartenir, d'avoir des frontières? Est-ce que c'est possible dans l'interdépendance, dans la relationnalité, ou est-ce que c'est fondamental? Puis je trouve que ça ressortait quand même dans les moments de solitude, dans le retour vers le monde. Puis ça ressortait aussi dans ce que vous avez dit, Mélanie, dans le sens que j'ai trouvé ça très intéressant, que la protagoniste du roman doivent s'exclure du monde pour retrouver confiance dans le monde. il y a quelque chose de vraiment, au niveau de l'image, vraiment intéressant qui s'exclut dans la forêt, mais c'est pour retrouver confiance. Puis là, on peut se demander, est-ce que c'est confiance dans le monde ou confiance dans la capacité à y faire face? Puis aussi, ici, on voit une grosse tension de l'urbanité qui est nécessairement synonyme de violence sexuelle. Bon, la question plus la forêt, etc., comme un refuge. Donc, il y avait une belle image là, je pense que c'est intéressant. Puis aussi le fleuve qui transparaît dans vos deux œuvres. Puis j'ai trouvé ça intéressant aussi dans votre présentation au niveau de la maîtrise. La question de la maîtrise au niveau de l'écoféminisme, c'est quelque chose qui est, en tout cas que moi, je trouve fondamental dans le fait que c'est pas une lunette qui nous encourage à adopter une maîtrise parce que oui, il y a de la colère, puis oui, surtout avec toutes les violences qu'on nomme, que vous nommiez dans vos œuvres, il y a de la colère, mais comment on s'engage avec cette colère-là, comment on s'engage avec le monde, puis comment on crée des ailleurs, c'est pas tellement dans la maîtrise en fait, c'est dans les failles justement. Mais en même temps, on peut se poser la question, quand on s'ouvre à nos failles, puis qu'on retourne vers le monde justement, en lequel on n'a pas confiance, comment on peut se protéger de ça en restant en contact avec notre vulnérabilité, ces failles-là. Donc, moi, en tout cas, c'est ça que j'ai ressorti. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Merci.
Oui.
C'est juste par rapport à ce que vous venez de dire, quand le rapport justement urbanité-campagne, où on associe s'exclure du monde, aller à la campagne. Peut-être que c'est aller s'inclure. Il y a quelque chose dans ce que vous disiez aussi qui va comme s'inclure dans le monde, c'est des liens qui permettent après ça d'exister dans différentes réalités, que ce soit dans la ville ou dans un village. Ou... Des fois, c'est juste de flipper les associations.
Il y a une reconstruction, c'est de restaurer un rapport au monde, un nouveau mode d'existence. T'sais, c'est une métaphore tout ça de comment qu'une victime d'agression, il y a une reconstruction à faire avec même le perceptif. Puis l'impulsion, puis tout ça part aussi de l'impulsion qu'on a beaucoup eu, beaucoup de gens, probablement partout dans le monde, mais on l'a vu au Québec, après le gros confinement, tout le monde s'est pitché d'un camping. Il y avait quelque chose à guérir, puis ça se faisait pas nécessairement en ville, surtout quand tu étais enfermé en ville. Puis dans le contexte que je veux explorer, c'est une ville qui est carrément menaçante, une ville qui a des frontières, des villes qui existent ailleurs dans le monde, tu sais, où on marche pas le soir dans la rue, ou peut-être jamais dans le jour même. Donc, c'est ça aussi, puis tu sais, c'est quelque chose qu'on a brièvement jasé, moi puis Émilie, mais comment qu'on... Tu sais, la fiction dystopique, c'est un privilège de l'hémisphère nord, là, parce que ces fictions existent ailleurs. Donc, comment on peut les explorer tout en... Tu sais, c'est un gros questionnement qu'on a en ce moment, là. En rendant justice aussi au fait que ben, on est privilégié de pouvoir appeler ça une dystopie.
J'avais écouté une émission où Margaret Atwood parlait de son travail. Elle disait que dans la dystopie qu'elle a créée, en fait, elle voulait que chaque élément soit prêt. Elle a été chercher dans les archives, dans les journaux, dans le quotidien, tout ça. Donc, son monde dystopique, elle l'a créé avec des éléments existants.
C'est comme un condensé.
Elle l'a tout mis ensemble, c'est ça, tu sais. Et c'est ça qui, ça donne un aspect aussi terrifiant à la chute.
Parce qu'on l'ancre dans quelque chose qu'on a déjà entendu parler, c'est ça, ça. Ouais.
Ma question s'adresserait à Annick.
Oui.
J'aimerais en savoir davantage sur comment tu vas faire. Parce que tu dis, ben là, il va falloir que je me laisse parler, puis là, que je donne la parole, puis là, vous n'êtes pas satisfaite de comment vous êtes arrivé à faire les choses, à construire les choses. Et puis, moi, ce qui m'intéresse dans le féminisme, entre autres, dans les féminismes, on va le dire comme ça, c'est le fait qu'on soit parfois forcé d'inventer une nouvelle langue. Mm-hmm. Et c'est ce qui est le plus beau défi. Parfois, parce que c'est là où on peut arriver à prendre notre place. Et là, j'ai l'impression que ça va être obligé d'en inventer une pour le club.
Ouais.
Et c'est une grosse job.
Oui, mais je l'ai faite. Je l'ai faite. La pièce a été créée le 4 novembre à Paris, puis c'est pas créé à Montréal en janvier au théâtre d'aujourd'hui. Comment j'ai procédé? En fait, j'essayais vraiment de ne pas tomber dans des pièges. Déjà, juste en réunion de production, on était comme, ben ça va être facile, là, ça va être le personnage avec la grande robe bleue vaporeuse. On va le distinguer facilement. Non, mais tu sais, on déconnait beaucoup avec ça, mais on était comme, pour vrai, c'est tellement associé à un paquet de clichés que comment faire? Et donc, ben c'est ça, j'ai commencé à dire tantôt que par rapport aux, tu sais, les autres personnages qui ont été pris en charge par Rebecca, parlent de leur petit quotidien et de leur grand drame dans une langue qui est assez punchée, vive, drôle même, parce que c'est important ça pour Rebecca. Et puis donc, on était comme, OK, ben créons quand même d'avance un décalage. Donc, est-ce que je vous donne un exemple? On dirait que ça va peut-être être plus simple. OK. C'est une des premières interventions du fleuve. Ça s'appelle « La dernière chose que porte un cadavre ». Le fleuve dit « Dans les faits, c'est pas souvent paisible de mourir en dedans de moi. Ça a le réflexe automatique de nager à mon contact un corps pas encore mort. Même si sa raison veut peut-être en finir, même si tout son être est possiblement déterminé à crever, ça a l'instinct de survie, puis aussi celui de se débattre. Un corps qui s'est jeté ou qui a été jeté dans le gouffre de mes os. La dernière chose que porte un cadavre, ça a souvent très peu à voir avec une paire de jeans, un t-shirt, un anorak, des bottes d'hiver. Mais c'est important pour ceux qui restent de pouvoir se dire « Je lui avais offert ce t-shirt ». J'aimerais ça pouvoir le dire, que si le corps n'a pas été retenu par des branchages, que s'il n'a pas été rogné par des animaux marins, que s'il ne s'est pas fracassé contre un rocher, que s'il n'a pas été propulsé contre une falaise, que s'il n'a pas été démembré par une hélice de bateau ou par son passage tumultueux dans une écluse, ça relève vraiment de l'exception. Mais que si la grande descente du corps se fait sans anicroche, c'est presque impossible pour moi de le leur rendre. La dernière chose que porte un cadavre, c'est assurément la peur. » Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire parler le fleuve en prenant en considération qu'il allait être sur des choses qui le concernent. Donc, les choses qui, de l'intérieur, qui vit de l'intérieur, il allait pouvoir prendre position là-dessus. Mais qu'après ça, sur les sentiments de la population face à lui, sur même ses propres désirs, il allait hésiter. Dans les mots, j'allais passer d'une dramaturgie qui fait des affirmations à une dramaturgie qui pose plus des questions, en fait. Puis c'est un peu comme ça qu'on a décidé de lui trouver une langue. Puis on voulait qu'elle soit quand même plus poétique que celle des personnages, mais pas trop non plus, donc on a essayé de trouver un entre-deux. Donc, puis même que pour enrichir son vocabulaire, puis pour pas tomber toujours dans la métaphore marine, qui est un grand gouffre, on est allé un peu, là. Je veux dire, à un moment donné, il dit « si j'avais le pouvoir d'un fleuve de mots, si j'avais le pouvoir d'un fleuve de bonnes intentions », mais pas trop. T'sais, donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on a géré la situation du fleuve.
Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, comment faire parler le fleuve sans rentrer, tu sais, dans l'anthropomorphisme, puis en lui projetant, tu sais, des sentiments à lui-même, tu sais, c'est un dilemme qu'on retrouve beaucoup, tu sais, dans toutes sortes de cultures, même ancestrales et tout. Puis pour ça que il y a certaines, même écoféministes, vont dire non, c'est stratégique. Parce que tant que c'est la Pachamama, c'est la terre-mère et tout ça, et puis qu'on peut lui attribuer certaines qualités humaines et tout, mais ça permet une mobilisation. Mmh. Après ça, bon, c'est ça, on en parlait un peu. Après ça, il y a d'autres féministes qui vont dire, mais oui, mais là, on rentre dans le fameux piège d'associer la femme et la nature. Puis si la femme est associée à la nature, on s'entend que les hommes se gardent la culture, là, dans cette division là, des paradigmes symboliques. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, à vous entendre, l'espèce de...
Il y a un tiraillement.
Oui, l'espèce de tiraillement que vous avez eu. Puis en même temps, effectivement, c'est vrai que pendant la pandémie, on a compris, en tout cas comme Montréalais, je l'ai vécu à Montréal, on a quand même pris conscience du fleuve, là. Puis il y a une baleine qui débarque.
Ouais, ouais, c'est ça.
Non, mais tu sais, il y a tout ça, tu sais, dans le sens que là, je prenais comme conscience de ma réalité insulaire aussi.
Là, nous, on avait l'impression que notre projet nous lançait des signaux. On va prendre ça là, sur nous.
Mais c'est intéressant à travers le langage aussi de voir comment ça se déploie là, dans vos deux projets.
Oui, dans mon projet aussi. Visiblement.
Moi, ça m'est comme arrivé par surprise parce que je pensais pas parler du fleuve, mais c'est en étant vraiment à la pointe de l'île. Puis c'est ça, il y a une toute petite bande de ce parc-là est vraiment étrange. Je vous encourage à tous y aller, mais il y a une toute petite bande qui fait face au fleuve. Puis c'est à travers une longue déambulation que j'ai fini là. Puis là, boum, tu sais, c'est ce souvenir-là. Bon, mon projet d'avant va travailler sur la mort, mais une mort qui est moins violente de m'en rappeler. Bien, une violence dans toutes les morts, là, mais là, c'est ça. Je pense que vu que j'avais ouvert la porte à la violence avec patience, c'est ça qui est ressorti, tu sais. Puis je sais pas encore quelle place le fleuve va prendre, mais ouais. Mais comme tu dis, c'est tellement inévitable de parler du fleuve en tant que Québécois. C'est tellement marquant, là. Puis tu sais, moi, je pense beaucoup... tu sais, j'ai décidé par hasard de prendre une lecture de vacances. Puis c'était Les Fous de Bassan que j'avais pas lu depuis le secondaire. Puis j'ai fait « Ah, tu sais, c'est plus des vacances, là. » D'un coup, je suis en train de travailler. Mais c'est ça, tu sais, ces récits-là de cadavres qui reviennent par le fleuve, ils nous précèdent aussi, là.
Est-ce qu'il y a une question? Oui, parfait.
C'est pour revenir un petit peu à ce qui avait été dit avant. Qui n'est pas une question dirigée, qui est une question un peu large, mais je pense que dans ton travail, il y a comme une grosse dichotomie de bien nature. Puis ces temps-ci, je pensais beaucoup à cette idée justement des colonies, comme cette espèce de construit colonial, en fait, d'avoir séparé le corps de la nature, puis cette espèce de fausse conception qu'on n'est pas nature, qu'il n'y avait pas la nature transformée. Donc je me demandais un peu comment vous conceviez de dichotomie, si elle est réelle ou fausse, entre l'urbain, ce qu'on appelle nature, le corps, puis qui on est.
Bon, mais non, mais je pense que j'essaie de jouer avec cette dichotomie-là pour justement la déconstruire, tu sais. Puis rappeler que finalement, comme tu dis bien, tu sais, l'homme n'est pas à l'extérieur de la nature, ou la femme n'est pas à l'extérieur, l'humain n'est pas à l'extérieur de la nature, il en fait partie, mais on est vraiment pris dans cet esprit-là colonial, mais aussi de l'idée du progrès, qu'on est vraiment dans un contexte de béton, tu sais, en tant qu'urbain, et qu'on se sent des fois déconnecté de cette réalité-là. Puis c'est ça, je pense, c'est le parallèle entre la guérison d'une agression puis la guérison en nature, de reconnecter avec ce lien-là. Puis tu sais, je veux pas parler de la nature comme quelque chose qui tu sais, je veux dire, il y a des autoroutes qui traversent la nature, mais de reconstruire ce lien-là. Je sais pas si je réponds bien, mais c'est encore en train de se... Mais oui, l'idée de déconstruire cette dichotomie-là, elle est au cœur de la recherche et de l'exploration.
Sinon, je trouve, bien, en fait, la question vraiment intéressante parce que je me la pose aussi, parce que c'est quelque chose qui m'anime aussi d'une certaine manière, puis je peut-être vous le relancer, mais il faut penser aussi qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas cette possibilité-là de sortir de l'urbanité, puis que l'urbanité aussi, on parlait de dystopie, mais pour certaines personnes aussi, l'urbanité montréalaise, elle est de fait de ces peurs-là aussi, donc je pense que c'est important aussi de rester la question urbaine, de pas la dénaturaliser et de la même manière que la question de la campagne, etc. Parce qu'en fait, quand on enlève l'aspect naturel, disons, de l'urbanité, mais on ne voit plus les injustices environnementales qui se passent aussi dans l'urbanité, donc l'accès au parc ou la pollution de son air par des industries. Puis de la même façon, dans la question que quand aussi on met beaucoup l'accent sur aller en campagne, ben aller en nature, on oublie enfin, il faut se questionner parce que c'est aussi une question d'accès. Quand on mobilise, on voit la nature comme quelque chose de, dans lequel on va. J'avais une discussion avec Lourdes-Denis Jean, là, qui travaille l'environnement intersectionnel. Puis elle parlait, on dit souvent que la nature, c'est comme quelque chose de... C'est comme quelque chose de bourgeois quasiment, parce qu'on a accès ou pas, mais c'est aussi notre vision de quelque chose d'extérieur qui fait qu'on a accès ou pas. C'est comme avoir accès ou pas à un milieu culturel, avoir accès ou pas, parce que c'est quelque chose qu'on voit comme extérieur. Je pense que tout ça, c'est important de l'avoir aussi en tête quand on refait la sortie vers... Fait que, voilà.
Oui, c'est ça que j'essaie de savoir. Comment vous positionnez par rapport à ces présupposés du côté de vous? Pas dans le sens où je suggérais qu'à mon sens, il y aurait une mais ça pèse de dire qu'il y aurait une pratique. Mais justement, je me demandais, parce que vous parliez d'aller, de sortir justement, puis je me demandais, par exemple, dans le contexte du roman, peut-être qu'il y a une plus grande porosité d'une certaine façon, parce que le produit est amené dans le lieu, puis en fait, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je me demandais comment est-ce que ça se traduit un peu.
Bien, c'est effectivement très, très riche comme question, là, parce que c'est sûr que moi, j'ai pas tendance à voir les choses de façon binaire, là, justement de séparer la ville puis la campagne. Je pense qu'on peut justement essayer d'aller queeriser tout ça, puis ne serait-ce que parce qu'on l'oublie, puis j'entendais un conférencier en parler parce que c'est son objet de recherche, mais on oublie toute la question de la banlieue, là, aussi, qui est comme cette espèce de zone tampon aussi entre la campagne et la ville et tout ça, et qui est un espace en soi, en tout cas, qui est un espace géographique qui est investi par ailleurs là, dans la littérature en ce moment, dans le cinéma et tout ça, puis c'est un espace qui est hyper riche aussi et intéressant. Donc, dans le cas du roman de Toxic, effectivement, là, vous l'avez super bien relevé, c'est-à-dire que c'est les produits chimiques de la ville, ce sont les produits chimiques du Nord qui arrivent à la campagne. Mais ces deux femmes-là vont aussi en vacances. En fait, il y a une des deux femmes qui va en vacances aussi à la campagne, et là, elle est exposée à cette toxicité, alors que l'autre femme vit là depuis quelque temps parce que son mari travaille à la grande plantation, etc., même si les hommes sont absents. Il y a une sensualité aussi, il y a presque un érotisme entre ces deux femmes-là, c'est un magnétisme, j'ai envie de dire, entre ces deux femmes-là, extrêmement fort. C'est aussi une grande partie du roman, c'était pas tellement lié aux questions écoféministes, mais ça participe de la tension, en tout cas, dans ce roman-là. Je veux juste revenir sur la question, tu sais, bon, pandémique et tout, parce que justement, dans la pandémie, on parlait de la baleine, je dis comme les gens de Québec, mais la baleine qui débarque, je parlais de ça, mais il y a eu toutes sortes, tu sais, il y a eu les dindes sauvages, il y a eu des renards, moi j'habite près de la montagne, j'ai jamais vu autant de raton laveur, mon poirier dans la cour, j'habite dans une cour, puis il y a un grand poirier, le poirier, je l'ai jamais vu donner autant de poires qu'en 2020. On se disait, est-ce que c'est la baisse de trafic et tout? Ça, c'est toutes sortes d'exemples pour dire que justement, même dans l'urbanité, on a pris conscience de cette interconnexion. En tout cas, moi, qui travaille et qui patauge dans les textes de Gloria Saldo depuis quelques temps, là, je comprenais, j'étais comme, ah oui, d'accord, je comprends. Parce que le fait que la pandémie qui affecte les humains, mais ça affecte le trafic aussi, automobile, etc., et tout ça. Et donc, ça va affecter aussi les arbres, ça va affecter aussi les animaux qui vont venir prendre une certaine place, parce que là, il y avait moins de bus, il y avait moins donc les ratons laveur descendait de la montagne. Il y a tout ça, je pense aussi qu'on a pris conscience. Et donc, ça pour dire que cette dichotomie-là ou cette vision-là binaire, là, urbaine, rurale, je pense qu'elle est, elle fait partie de l'imaginaire. Bon, en tout cas, dans ce que j'observe moi, elle est vraiment en train d'être déconstruite, puis à plein d'égards. Hein. Voilà.
On aurait le temps pour une dernière question. Sinon, je pense qu'on... Oui?
Qui s'incarne dans une démarche qui se veut écoféministe. Est-ce qu'il faut s'ouvrir la porte à la violence pour pouvoir rentrer dans le cœur après? Est-ce que c'est un processus qui est nécessaire?
C'est une bonne question. Je pense que j'ai envie de rebondir sur la question de la vulnérabilité puis des frontières. Parce que c'est ça, tu sais, quand tu es survivante d'une agression, tu es bâti à travers le temps des frontières puis des carapaces. C'est vraiment là-dedans que j'essaie de travailler, là, comment on enlève cette barricade-là pour pouvoir aller travailler dans le vif de la psyché, tu sais. Tu sais, je pense que l'œuvre que je vais essayer d'écrire, parce que j'ai pas commencé à l'écrire, va vraiment être dans ce niveau-là, tu sais, de métaphore de la psyché. Tu sais, en fait, c'est la façon la plus safe de les travailler là-dedans, c'est d'écrire, plutôt que d'aller dans un processus légal. Qui pour moi n'est pas possible et me parle pas, puis pour plein d'autres personnes, pour différents contextes, c'est pas toujours possible, tu sais, de dénoncer publiquement, de sortir dans la rue pour dénoncer son agresseur, ou tu sais, dans plein de contextes. Fait que je pense que c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas cette option-là? Comment on guérit? Puis encore là, la question de la guérison, c'est complexe, c'est beaucoup plus une transformation, une métamorphose. Mais je pense que pour faire place à la transformation, à la métamorphose, il faut accéder à une part de vulnérabilité. C'est peut-être ça que je vais dire en ouvrant la porte à la violence, parce que c'est retrouver cette violence-là.
Bien, merci vraiment beaucoup pour tout ce que vous avez abordé. On a pu vraiment s'intéresser à plein d'aspects. De tout ce que ça veut dire être écoféministe, mais aussi de vos imaginaires puis de vos créations. Donc, je vous remercie beaucoup et merci pour les questions, c'est super intéressant. Donc, voilà.
Merci.